Bonjour à tous, bienvenue sur le Radio Lab, l'émission des jeunes de PFM. Aujourd'hui, on va faire une petite rétrospective de l'année 2020, même avant, parce que il y a eu beaucoup de choses cette année de merde. Donc, on va parler peut-être de 2019. Hein, on va un petit peu mordre, hein, on triche complètement. Et donc, aujourd'hui, on est avec Charlie.
Bonjour à tous.
Lou.
Salut.
Thaïs.
Coucou.
Et moi-même, Vivien, le meilleur du Radio Lab. Ah, on n'aurait pas d'objection à dire là-dessus, je pense.
Bien entendu.
Ça va aller bien, Vivien.
Donc aujourd'hui, on va faire du coup, comme annoncé, des choses qui vous a marqué en 2020 et aussi en 2019. Donc ça va parler musique, littérature et aussi de cinéma. On commence avec Thaïs. Tu nous parlais d'un concert que tu as vu en live durant le confinement. Donc, le monde de la culture, ça n'a pas été fort pour eux cette année avec le Covid. Donc, se sont démerdés comme ils ont pu. Et gros kudos à tous les gens qui ont réussi à créer du contenu, que ce soit musique, même à l'écrit. Enfin, faut donner un grand respect à ces gens-là, malgré les conditions actuelles. Donc, dis-nous tout, Thaïs.
Je vais vous parler de Lisa Olivet, née le 24 juin 1987. C'est une chanteuse, auteure-compositrice de musique pop japonaise, originaire de Seki, connue sous le pseudonyme de Lisa. Sur sa chaîne YouTube Lisa, elle a fait un concert sur sa chaîne en live. Elle a joué quelques musiques de toutes sortes d'albums. De nombreux artistes, pendant le confinement, ont fait des concerts pour donner des nouvelles et partager leur musique et leur bonne humeur. Récemment, Lisa a sorti Omura, une musique créée pour le film Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, Le Train de l'Infini. Elle a eu la musique principale d'un mouvement émouvant dans ce film. Pour l'instant, le film n'est toujours pas sorti au cinéma et sortira peut-être un jour, mais on peut retrouver le film sur Internet.
Tonight.
Je vous ai parlé de l'artiste Lisa et de la musique au moulin.
Oh bah, merci Thaïs pour les découvertes japonaises. C'est toujours cool d'avoir des nouvelles de la scène japonaise parce que c'est pas juste que tu vois les trucs un peu boys band, tout ça. Donc super. Et donc c'est ensuite à Charlie, notre Benjamin, qui va nous parler d'un classique de la littérature, c'est-à-dire 20 milieux sous les mers, écrit par Jules Verne.
Effectivement. Je vais vous parler de 20 milieux sous les mers, écrit par Jules Verne. C'est un livre qui a été très connu, qui a été repris au cinéma, qui a fait un succès. Alors, cette œuvre, c'est d'abord un livre que j'ai beaucoup aimé et que j'ai lu. J'ai lu chez les éditions Lire, c'est partir, en version abrégée. Ce qui est bien, c'est que en version abrégée, c'est plus court. Et ça garde le style de l'auteur, donc c'est plutôt pas mal. Alors, si vous voulez, je peux faire un résumé de l'histoire. Il y a un monstre marin ayant été signalé par plusieurs navires à travers le monde. Une expédition est organisée pour capturer cet être inquiétant. À bord se trouve le français Pierre Aronnax, Conseil, son fidèle domestique, et le harponneur canadien Ned Land. Ils se retrouvent sur le dos du monstre. Celui-ci se révèle être un fabuleux sous-marin. Le Nautilus, conçu, commandé par un étrange personnage, le Capitaine Nemo. La plus extraordinaire aventure commence alors pour les trois hommes. Donc oui, effectivement, c'est un résumé là, que j'ai fabriqué moi-même. Alors ce livre, je l'aime bien parce qu'on ne s'ennuie jamais. Et puis, il y a plusieurs intrigues qui se règlent, mais on ne sait pas pourquoi. Par exemple, au début, on sait que le Capitaine Nemo, il est dans son Nautilus, il traverse les mers. Il est prêt à faire le tour du monde, 20 milieux sous les mers, c'est-à-dire. Il a la haine des humains qui habitent sur la Terre. Par exemple, il ne veut plus jamais les voir, il ne veut plus aller jamais sur Terre. Du coup, il est renfermé dans son Nautilus à jamais. Et le capitaine Nemo, quand il reçoit Pierre Aronnax, Ned Land et Conseil, il dit qu'il rentre dans le Nautilus, n'y sort jamais. Ça veut dire qu'ils sont condamnés à rester toute leur vie, quasiment, dans le Nautilus. Et ce qui est marrant, c'est que du coup, ils doivent se débrouiller dans la mer pour manger et ne pas aller sur terre. Donc, ils mangent du foie de phoque, ils mangent que des choses exclusivement de la mer. Nos trois héros apprennent que la mer est très extraordinaire, car à cette époque où le livre a été écrit, on ne savait pas grand-chose sur la mer. On n'avait pas encore des sous-marins, tout ça qui permettrait d'aller voir les fonds marins. Et quand Pierre Aronnax, professeur naturel, du Muséum naturel de Paris, apprend ça, et ben, il est vachement passionné, il est rédigé, même on fera un carnet de bord, et c'est vraiment bien comme livre, j'ai bien aimé. Faut un peu s'accrocher au début, mais sinon, tout est bien. Bon, voilà, c'était 20 minutes sous les mers, un livre de Jules Verne, très apprécié.
Et du coup, la version abrégée par rapport à celle d'origine, elle est ça s'abrège de combien de pages environ, tu le sais ou pas?
Je sais pas, Jules, 20 milieux sous les mers, ça doit bien faire 500 pages en complet.
Mm-hmm.
Là, il y a à peu près, ça reprend les passages marquants, il y a à peu près 160 pages.
Ah, quand même, comme ça...
C'est écrit gros, mais ça prend les passages marquants. En fait, les chapitres, c'est comme des titres, un vaisseau hors du commun, ça résume l'histoire. Mais c'est pas un résumé ni l'intégrale.
Ouais, c'est entre les deux. C'est des titres accrocheurs, quoi. C'est ça.
Ouais, c'est écrit ça, en fait. Afin de rendre ce texte plus accessible aux jeunes lecteurs, nous en proposons une version abrégée. Ce n'est ni l'adaptation, ni le résumé. Les coupures ont été effectuées de manière à laisser intact le ton de l'ouvrage et le style de l'auteur. C'est ça, en fait, l'abrégé.
D'accord, ouais, c'est sûr que j'avais fait pareil. C'est un autre classique de la littérature française, c'est Les Misérables de Victor Hugo.
Oui.
Et qui fait, je crois, 1500 pages vraiment compilé. Et je crois que j'avais vu une version de 500 pages qui était beaucoup plus digeste. Parce que j'aime beaucoup Victor Hugo, mais Hugo, ça fait partie un peu des auteurs qui prennent 20 pages pour décrire un truc assez banal. Ouais. Donc.
Quand les livres sont longs, des fois, ouais. On commence à en avoir marre.
Après, si le livre est bien, si tu peux faire 700 pages, tu te mets bien.
Oui, c'est pas très grave. Mais quand il y a des longs passages qui parlent toujours de la même chose, ça commence à être ennuyant.
Ouais, et je me disais aussi, Jules Verne, ça reste aussi un mec, un auteur qui reste intemporel, quoi, parce que plein de films sont encore adaptés récemment sur les œuvres de Verne. Donc,
Oui, ça a toujours été un grand auteur. D'ailleurs, il n'était pas qu'auteur, hein. C'était un auteur de science-fiction. Tout ça, c'est possible aujourd'hui, à son époque. C'était pas du tout possible. Il imaginait ce qu'il y avait dans le futur.
Et je crois que c'était surtout un des écrivains, pardon, un des écrivains les plus traduits au monde, je crois, après Shakespeare, enfin, donc grand nom de la littérature. Et donc, 20 milieux sous les mers, un classique qu'on se doit tous de lire, à mon avis, même que ce soit la version originale ou abrégée, pour ceux qui le souhaitent. Merci à toi, Charlie. Donc, on vous écoutait Radiolab, l'émission des jeunes de PFM 99.9. On se retrouve du coup pour la troisième chronique. C'est Lou qui va nous parler musique et d'un album en particulier, Confession, de ce bon vieux Philippe Catherine.
Alors, je vais vous parler de l'album Confession. Donc, c'est l'album de Philippe Catherine qui est sorti le 8 novembre 2019. Et j'ai bien aimé cet album. Alors c'est cet album-là qui m'a fait vraiment découvrir Philippe Catherine. Avant, je connaissais, mais j'écoutais pas vraiment. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cet album. En plus, il chante avec beaucoup d'autres chanteurs comme Oxmo Puccino, Dominique A. Angèle et aussi Chilly Gonzalez. Et voilà, j'ai bien aimé cet album pour l'année 2020. Et je vous propose d'écouter Blond avec Gérard Depardieu.
Et on rappelle que Gérard Depardieu est surtout le beau-papa de Philippe Catherine. C'est peut-être pour ça que le feat est possible. Et ça me fait extrêmement marrer parce que bah, Gérard, quoi, Depardieu, le meilleur d'entre nous.
Vous êtes blond!
Blond, blond, blond! Que je suis blond, je suis bon en natation parce que je suis blond. Je tutoie les condés parce que je suis blond. Je passe à la télé parce que je suis blond. Jamais, jamais été contrôlé parce que je suis blond. Jamais, jamais montré mes papiers parce que je suis blond. On se méfie pas de moi après un attentat. Les mamies se collent.
Salut.
Parce que je suis blond.
Salut.
Parce que je suis blond.
Salut.
Blond.
Vous êtes blond. Et vous vous étonnez qu'aujourd'hui encore, des Noirs américains venus de Louisiane portent votre nom de famille. Et les ports de Nantes et de Bordeaux. Ça vous dit quelque chose, monsieur le blond?
Si je ne t'appelle pas mon frère, c'est parce que tu n'es pas mon vrai frère. Ouais, je sais, c'est un peu con. C'est parce que je suis blond, frère. Parce que je suis blond.
Vous êtes blond.
Je suis
blond.
Blond. Je n'ai jamais été contrôlé.
Vous êtes blond.
Parce que je suis blond.
Ne vous inquiétez pas, je ne vous veux aucun mal. J'ai pris l'apparence de Philippe Catherine, Philippe Catherine, Philippe Catherine. Je suis venu vous observer, vous, les humains, pour mieux m'introduire parmi vous. Allez, on est à la télé.
Non, la télé, la télé, la télé, la télé.
C'était Blond de Philippe Catherine. Vivien, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui ?
Je veux parler d'une autre passion dans la vie, à part celle des hommes en slip qui se battent dans un ring et avec le corps qui sointe. C'est le cinéma. J'ai un peu renoué avec le cinéma, avec la crise sanitaire. Et dernièrement, il y a un film qui est sorti dans un réalisateur assez connu, c'est David Fincher, et qui a bien attiré mon attention et quand j'ai kiffé lorsque je l'ai maté, c'est Mank. Donc Mank, c'était en fait un scénario écrit par le papa de David Fincher, Jack Fincher, et en fait ça met en scène l'écriture de Citizen Kane, donc un film ultra connu aux États-Unis, considéré souvent comme le plus gros film jamais réalisé dans l'histoire du cinéma. C'est avec Orson Welles notamment, et écrit en fait par Herman Mankiewicz. Et en fait, le film se centre sur Mankiewicz, et son surnom c'est Mank, parce que vous entendez un petit peu que dire Mankiewicz, c'est un peu chiant à dire, donc tout le monde l'appelait Mank, c'est son petit surnom. Et en fait, la particularité du coup de Mank, de Fincher, c'est qu'il est en noir et blanc. Déjà, noir et blanc, donc ça froisse déjà un peu tout le monde, et c'est ce qui avait surtout un petit peu... pas permis du tout à Fincher et Fincher père et fils de réaliser le film, parce que c'est dans les années 90 que Fincher père écrit le scénario et ils se disent bon, on va essayer de le proposer au producteur. Au début ça passe, mais en fait au moment du financement on lui va dire mais non les gars, un film en noir et blanc, on est en 90, mais vous déconnez, non, cassez-vous. Donc, ils ont un petit peu mangé leur seum et ils se sont dit, putain, on n'aura plus de Mank, impossible de le faire. Et Jack Fincher passe l'arme à gauche au début des années 2000. Donc, il emporte avec lui sa déception de ne pas avoir réalisé ce Mank. Et Fincher s'est donc rapproché de Netflix. Donc, Netflix, un petit peu, c'est du coup maintenant c'est un peu le géant quoi, en termes de distribution de films. Ils ont dit bon, tu veux faire ton truc en noir et blanc là ? Allez, signe. Et beaucoup de maintenant réels signent pour Netflix pour réaliser un petit peu tous leurs petits fantasmes. Et Mank, du coup, c'est le Mank Mankiewicz, c'est interprété par Gary Oldman. Donc, déjà, un super choix pour incarner Mank, Gary Oldman, parce que pour ceux qui s'y connaissent en cinéma, Oldman, ça va être. Léon de Besson, Le Cinquième Élément, aussi Harry Potter, Batman aussi. Batman, c'est un véritable caméléon, et encore là, tu ne reconnais pas Gary Oldman qui nous livre encore une superbe prestation. Et aussi le charme du film, en fait, en noir et blanc, c'est surtout ça, c'est tu replonges dans un hommage du cinéma hollywoodien des années 30. Vraiment, je me suis plongé dedans, j'y connais absolument rien, moi, au cinéma américain, le cinéma hollywoodien, quand ça florissait de tous les horizons. Je n'ai pas vu Citizen Kane et j'espère le voir prochainement. Mais non, franchement, Fincher s'éclate, quoi. T'as Oldman, t'as aussi Lily Collins, la fille de Phil, qui, après m'avoir un petit peu dégoûté dans Emily in Paris, parce que c'est aussi une production Netflix qui m'a un petit peu dégoûté. Moi, je l'ai tellement mieux préféré dedans et je me dis, elle n'est pas si mal que ça. Et t'as un bon petit cast derrière. Comme l'atout principal, c'est Gary Oldman. Vraiment, c'est celui où tu vas dire, ah, c'est Sirius Black d'Harry Potter. Tu vois, pour peut-être ceux qui se disent, ah, j'ai peut-être regardé. Mais franchement, très bon film, très bel hommage. Et comment dire, c'est Fincher, quoi. Pour ceux qui aiment Fincher, c'est Gone Girl, son dernier film. Déjà, il faut rappeler que Mank, ça intervient 6 ans après son dernier film. C'était Gone Girl avec Ben Affleck, qui est aussi incroyable. Il y a Seven, il y a Fight Club, Fincher. Il faut adhérer à l'univers, mais franchement, le Mank, je vous le recommande absolument. C'est ma petite recommandation de l'année. C'est ce qui me sauve 2020. Et donc, vous pouvez du coup retrouver Mank de David Fincher sur Netflix, qui est disponible depuis début décembre. Et vu que c'est une production Netflix, ça va y rester indéfiniment.
Mank, it's Orson Welles. Of course it is.
I think it's time we talked.
What is it the writer says? Tell the story you know.
Hello, everyone.
Make yourself to home, Mr. Mankiewicz, or shall I call you Herman?
Please, call me Mank.
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 This is Herman Mankiewicz, but we're to call him Mank.
Mankiewicz. Herman Mankiewicz, New York playwright and drama critic.
Turned humble screenwriter, Mr. Hearst.
This is a business where the buyer gets nothing for his money but a memory. What he bought still belongs to the man who sold it. That's the real magic of the movies.
Thunder, lightning, blood, fire, religion.
Help! Someone save me!
All in one film.
That's director proof.
That's why I always want Mank around.
I hear you're hunting dangerous game.
C'est sûrement la dernière Radiolab de l'année, hein, après avoir passé une année entre Zoom et la vie réelle. On ne sait plus qui est quoi, donc on vous dit au revoir et en espérant se revoir dans de meilleures conditions, tout le monde. C'est ce que j'espère quand même. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Joyeux Noël et bonne année. Bonne santé et pas des pieds. Voilà, je finis une bonne vanne de bouffe. Bisous.